BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi une sur BFM Business, bienvenue. Si vous nous rejoignez à la une de 60 minutes business, l'heure de vérité pour les marchés aux États-Unis cet après-midi. L'inflation américaine de juillet sera dévoilée. Les bourses mondiales glissent dans le rouge. En attendant, on fera le point avec notre invité en studio, Christian Parizeau, d'Aurel BGC. Mais pourquoi diable a-t-il vendu 7 milliards de dollars d'actions? Elon Musk, le patron de Tesla, a revendu des parts de son groupe en anticipant sans doute le rachat forcé de Twitter par les autorités américaines. Face à l'inflation, faut-il augmenter les salaires? La question exacerbe les tensions, et non plus seulement entre patronat et syndicats, mais aussi entre les organisations patronales. Les divergences sont si fortes qu'elles s'affichent même au grand jour. Et puis cette sécheresse qui frappe la France, qui n'en finit plus, profite aux producteurs de sel. On sera avec un président de fédération dans un instant. Bienvenue à tous. Les marchés boursiers sont à la baisse ce matin avec cette séance estivale qui sera marquée par des volumes d'échanges réduits. En attendant, les investisseurs attendent surtout cet indice, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Si la flambée des prix à la consommation dépasse les prévisions, elle pourrait inciter peut-être la Réserve fédérale à durcir davantage ses resserrements monétaires. Christian Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce 10 août. Conseiller économique d'Aurel BGC. Alors, on était à plus 9,1% en glissement annuel. Est-ce qu'on a atteint le pic?
Alors, oui, là, je pense qu'on l'a atteint, mais faut voir comment on a atteint ce pic. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est sûrement un chiffre beaucoup plus modéré, mais ça va être essentiellement lié au recul des prix énergétiques. Hein. On a quand même le pétrole qui a pas mal baissé, et donc on va avoir un effet positif sur cet indice qui va un petit peu reculer. Mais ce qu'on va regarder surtout, c'est hors énergie, hors alimentation, comment évoluent les prix. Et là, c'est vrai qu'on est quand même dans un facteur de risque, parce que on est quand même sur une... Faut pas l'oublier, les marchés ont le sentiment que tout de suite, l'inflation va reculer, les prix des matières premières ont baissé, alimentaire, matières premières industrielles, et donc immédiatement l'inflation devrait reculer. Or, on sait qu'il y a une certaine résilience de l'inflation, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que vous allez les prix que vous allez monter aux consommateurs, ce sont des coûts que vous avez eus au cours des derniers mois. Donc, il y a un vrai risque de décalage. Il y a beaucoup d'anticipation en se disant ça y est, le pire est passé là-dessus. Mais j'ai un peu peur qu'on soit un peu trop rapide dans le mouvement. Ça va demander quand même quelques mois pour que véritablement la baisse des tensions inflationnistes se répercute aux consommateurs. Donc, attention à ce chiffre, c'est un chiffre à haut risque forcément, parce qu'on a eu des chiffres de l'emploi très forts aux États-Unis. Si derrière on a une inflation qui se calme pas rapidement, on va avoir des scénarios très négatifs en termes de hausse des taux, et ça pourrait pénaliser le marché.
Mais on entend donc un double tranchant entre le prix du Brent notamment qui est à 95$ aujourd'hui, l'énergie globalement qui coûte moins. Les économistes anticipent une hausse de 8,7%, donc en léger recul sur l'inflation américaine, une accalmie qui serait viable. Est-ce que ça ferait en sorte que la Fed serait moins agressive lors de sa prochaine réunion monétaire?
Alors, moins agressif, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que les chiffres de l'emploi ont quand même cassé une grande partie des gens qui étaient un peu plus colombes au sein de la Banque Centrale Américaine. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un marché du travail qui reste tendu. On a quand même... alors, ce que regarde beaucoup M. Powell et les membres de la Fed, c'est le nombre de postes non pourvus. Alors, ça commence à baisser, mais ça reste quand même historiquement élevé. Et pour lui, sa vraie crainte aujourd'hui, hein, c'est pas finalement cette inflation liée à la hausse des prix du pétrole. Sa vraie crainte, lui, aujourd'hui, c'est que les salaires continuent d'accélérer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché du travail est tendu. Donc pour lui, le vrai moteur de l'inflation durable, hein, et c'est encore une fois, les prix du pétrole, c'est trop volatile pour faire des projections, donc lui, ce qui est vraiment important pour lui et ce qui est vraiment à risque, c'est l'inflation salariale. Et pour l'instant, les chiffres de l'emploi nous ont dit le marché du travail se tient. On n'est pas du tout en récession aux États-Unis si vous regardez les chiffres de l'emploi. Et aujourd'hui, les Américains ont intérêt à quitter leur emploi pour demander des hausses de salaire. Donc, on est véritablement dans une image aujourd'hui d'une économie américaine très solide. Et ça casse un peu l'image de on va pouvoir mettre une pause, quoi. Et tant qu'il n'y a pas ce signal qui est envoyé par le marché du travail, je pense que M. Powell restera assez agressif.
528 000 emplois créés. Alors, vous parlez justement, le mot, c'est la récession. La croissance américaine stagne maintenant depuis deux trimestres. Est-ce que avec ces chiffres de l'inflation qui pourraient réduire un petit peu, on peut s'attendre à une embellie du côté du PIB?
Alors, ça, on va avoir déjà peut-être quelques signaux un peu plus positifs. D'une part, parce que les taux longs ont baissé, les taux hypothécaires sont repassés sous la barre des 5%, et on sait que le marché immobilier avait pas mal souffert de cette remontée. Donc ça, déjà, ça va être un élément stimulant. Et puis, on sait que derrière, on a quand même une progression. Alors, c'est peut-être c'est un peu spécial à commenter, mais c'est vrai qu'on a une hausse des salaires de 5%. Alors, 5%, ça paraît énorme, mais quand on a une inflation à 9, c'est pas si énorme que ça. Sauf que si l'inflation commence à ralentir et que les salaires continuent sur un rythme de 5%, ça veut dire que là, on est dans un schéma où on a une hausse des salaires qui peut entretenir une inflation beaucoup plus forte que l'objectif de la Banque centrale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va forcément avoir une désinflation. Là, on a quand même un vrai recul des impacts directs des prix et matières premières. Mais derrière, c'est à combien on se stabilise. Et je vous dirais pas la même chose si on se stabilise à 2, si on se stabilise à 5 ou si on reste à 9. Et là, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt une inflation qui va décroître, mais qui va rester sur des niveaux proches de 5 parce qu'on a des salaires, des coûts salariaux qui progressent sur un rythme assez solide. Encore aujourd'hui, pas suffisant pour compenser l'inflation, mais si l'inflation commence à vraiment freiner, on va avoir vraiment un pouvoir d'achat des ménages américains qui va stagner, et donc on va autant entretenir cette inflation en maintenant un rythme de salaire assez élevé.
Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC, on va parler également de cette perte de vitesse de la bourse, moins 13% pour le S&P 500. Les géants de la tech sont aujourd'hui en perte de vitesse, clairement. Amazon, moins 6,8. Apple, moins 6,8. Amazon, moins 15,5. Microsoft, moins 15,8. Alphabet, moins 18,9. On a tous en tête Meta, qui pour la première fois de son histoire a vu ses revenus décliner. Est-ce que la croissance à plus 20, plus 30% dans les milieux de la tech, c'est fini désormais?
Alors, c'est fini. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a quand même un vrai changement, une vraie rupture. Alors, une rupture, d'une part, parce qu'il y avait eu la parenthèse Covid. Et la parenthèse Covid a été un moteur et un accélérateur pour pas mal de ces groupes technologiques. Je vous prends un exemple. En quelques mois, on a fait du télétravail, tous. Pour arriver à ce niveau de télétravail, il aurait fallu sûrement plusieurs années, voire peut-être une décennie. Et là, on l'a fait en quelques mois. Donc, ça a stimulé les équipements, ça a stimulé les achats, ça a stimulé pas mal d'investissements technologiques. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ces acteurs-là, le marché du télétravail est arrivé à maturité. Vous n'allez pas changer votre webcam tous les deux jours. Donc, il y a eu un effet quand même d'accélérateur, mais aujourd'hui, on est sur des marchés beaucoup plus matures pour ces groupes-là. Et puis, on s'aperçoit que ce sont des groupes qui n'aiment pas l'inflation. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas forcément tous en tête. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une partie des revenus, des recettes qu'ont ces groupes technologiques. Ce sont des groupes qui fonctionnent par abonnement. C'est-à-dire que vous achetez plus le logiciel, mais vous payez un abonnement. Alors ça, c'est bien quand il n'y a pas d'inflation. Parce que votre abonnement, finalement, vous le laissez relativement stable. Il est peu élevé tous les mois. Vous ne le regardez pas. À partir du moment où je dois vous l'augmenter régulièrement de manière importante, eh ben, ça devient véritablement un frein à votre développement. Et ça, c'est tout le problème qu'a aujourd'hui Amazon qui essaye de remonter son abonnement Prime, mais faire une hausse de 40%, est-ce que ça va pas décourager les gens de prendre cet abonnement Prime? Et on sait que ceux qui ont un abonnement Prime consomment deux fois plus sur la plateforme que les non-Prime. Donc, il peut se tirer une balle dans la tête, dans le pied en augmentant ses... Donc, l'économie de l'abonnement, c'est pas une économie qui aime bien l'inflation. Et puis, dernière chose, qui dit inflation dit hausse de salaire. Et quand on est dans un groupe technologique, bah, quand même, la première valeur ajoutée, c'est les cerveaux de ces ingénieurs. Et donc, si on doit payer beaucoup plus cher ces ingénieurs, c'est des hausses de coûts qui dérapent assez vite. Donc, c'est vrai que la thématique inflation, l'arrivée à maturité de pas mal d'activités, et puis peut-être aussi le sentiment qu'ils ne sont pas si insensibles à la conjoncture, fait qu'on a peut-être des jugements qui se révisent. Alors, ça reste de très bons groupes, de très fortes croissances. Il faut relativiser. Mais attention, parce qu'on change quand même de monde par rapport à ce qu'on disait au moment du Covid, où ça nous paraissait des groupes inattaquables, qui sortaient des résultats à deux chiffres. Là, on est quand même sur un changement un peu de vision, de perception de ces groupes technologiques.
Une rupture importante pour les groupes de la tech, donc, qui semblent calés, en tout cas, aujourd'hui. Quels sont leurs réservoirs de croissance?
Alors, ils en ont encore, hein. Ils sont sur des marchés de croissance. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les réservoirs de croissance sont peut-être plus du côté de l'investissement des entreprises. Les entreprises doivent continuer à avancer dans tout ce qui est dématérialisation, de tout ce qui est informatique dématérialisée. Donc, il y a encore du potentiel. Par contre, c'est vrai que tant qu'on a une inflation qui est forte, je vous prends, c'est l'exemple typique de Netflix. Netflix, est-ce qu'on peut s'en passer finalement? Donc, tant qu'on qu'on a, tant qu'il faut mettre le plein dans la voiture et acheter de l'alimentaire, on préfère ça à un abonnement Netflix. Donc tout ce qui est lié aux biens de consommation, on va peut-être moins changer son smartphone. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, vous avez des groupes qui sont proches des consommateurs, qui sont sûrement beaucoup plus chahutés, à mon avis, que les groupes véritablement qui dépendent de l'investissement des entreprises, où là, on a un vrai besoin. Je prends souvent l'exemple d'Oracle, hein, qui nous disait qu'il y avait énormément d'investissements aujourd'hui des entreprises dans les logiciels qui gèrent les chaînes d'approvisionnement. C'est assez logique. Quand vous avez des problèmes de rupture d'approvisionnement et tout ça, vous investissez là où vous pouvez améliorer vos chaînes d'approvisionnement et c'est essentiel. Donc ça, ce sont des investissements un peu obligés qui vont se poursuivre. Donc il y aura de la sélectivité à faire, à mon avis, au sein de ces groupes technologiques.
Merci beaucoup Christian Parisot, économiste conseiller chez Aurel BGC, d'être intervenu sur BFM Business. Midi 11, 7 milliards de dollars, c'est le chiffre à retenir ce matin. Elon Musk revend une partie de ses actions de Tesla après le feuilleton du rachat avorté de Twitter pour 44 milliards. Le multimilliardaire redoute d'être contraint au deal par les autorités américaines. Avec ce pactole, Simon Tenenbaum, Elon Musk veut sécuriser sa trésorerie.
Elon Musk cherche à assurer ses arrières. Il a cédé ces derniers jours près de 8 millions d'actions Tesla. Il s'agit, explique-t-il, d'éviter une vente en urgence de ses titres s'il devait être contraint par la justice de racheter Twitter et si certains de ses partenaires financiers devaient se désengager. En effet, c'est un procès prévu en octobre qui devra déterminer si le milliardaire doit aller au bout de son opération de rachat, lui qui a retiré début juillet son offre à cause de la polémique sur la proportion de faux comptes sur le réseau social. Selon les termes de l'accord de départ, Elon Musk est engagé à apporter personnellement 33,5 milliards de dollars sur les 44 milliards de son offre d'acquisition. Ces derniers mois, Elon Musk a multiplié les ventes d'actions Tesla, d'abord pour payer ses impôts sur l'exercice de ses stock options, puis pour financer son offre sur Twitter. Il a ainsi récolté 32 milliards de dollars depuis un an. Le milliardaire, qui conserve 15% du capital du constructeur, assure qu'il réinvestira dans Tesla si le deal avec Twitter est, comme il l'espère, définitivement abandonné.
Jeté sur la table, 52 milliards de dollars et bientôt une loi pour doper la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Joe Biden entend remettre son pays dans la course aux puces en signant le Chips and Science Act, un plan colossal pour développer la production de puces semi-conducteurs sur le sol américain. Laura Cambeau.
En ramenant la production de semi-conducteurs sur le sol américain, l'objectif de Joe Biden est clair, assurer la souveraineté des États-Unis et, selon son expression, gagner la compétition économique du 21e siècle.
La Chine essaie de nous dépasser. Ce n'est pas étonnant que le Parti communiste chinois ait procédé à un lobbying actif contre cette loi. Les États-Unis doivent être le leader mondial de la production de ces puces.
Pour y parvenir, près de 53 milliards de dollars seront consacrés à des subventions pour la production, la recherche et le développement. Autre mesure, un crédit d'impôt à l'investissement pour les usines de puces pour un montant estimé à 24 milliards de dollars. Un plan colossal pour atténuer la dépendance des États-Unis aux puces électroniques.
Il y a plus de 30 ans, les États-Unis avaient 40% de part de marché des semi-conducteurs, puis on a laissé les usines partir à l'étranger. Résultat, on n'en produit même pas 10% aujourd'hui.
Pendant la pandémie, les pénuries de semi-conducteurs ont fait flamber les prix de l'automobile et plus généralement de l'économie américaine. Avec cette loi, la Maison-Blanche espère limiter l'inflation, mais aussi assurer sa sécurité nationale, car de nombreux équipements militaires fonctionnent à l'aide de ces puces.
Berlin va déployer 10 milliards d'euros de mesures fiscales pour atténuer la hausse des prix à la consommation. Ce paquet de mesures consiste notamment à relever le niveau à partir duquel le taux maximal d'imposition sur le revenu de 42% s'appliquera et augmenter les allocations familiales allouées. Le gouvernement allemand était contraint d'agir, selon le ministre, face au renchérissement des prix, notamment ceux de l'énergie. Bataille à couteau tiré chez EDF avec son principal actionnaire, l'État. Le producteur d'électricité demande plus de 8 milliards d'euros d'indemnités contre le bouclier tarifaire, alors même qu'il doit être nationalisé. On n'y comprend plus rien. Sofiane Aklouf, c'est pour compenser le trou provoqué par le bouclier tarifaire.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, Thomas. EDF contraint d'acheter de l'électricité au prix fort d'un côté, mais de la brader à ses concurrents de l'autre. Le gouvernement a forcé l'électricien à augmenter de 20% le quota d'électricité qu'elle vend à ses concurrents. Le groupe estime que ce bouclier tarifaire va peser plus de 10 milliards d'euros dans ses comptes. Il avait déjà adressé un recours gracieux en mai à l'État. Argument financier à l'appui, recours resté lettre morte. Bercy n'est pas vraiment surpris de ce nouveau recours, mais reste campé sur ses positions. Il fallait mettre en place ces mesures. Sans cela, la facture des ménages aurait augmenté de 35%.
Sofiane, pourtant EDF est lourdement endettée.
Selon les syndicats d'EDF, cette dette pourrait même atteindre 65 milliards d'euros à la fin de l'année. D'autant que l'entreprise est déjà dans une situation industrielle très difficile, avec des centrales à l'arrêt et donc de l'argent en moins dans les caisses, à un moment où l'entreprise doit de plus investir pour entretenir ses réacteurs et où l'on doit avancer sur notre indépendance énergétique. De son côté, l'État rappelle que ce recours intenté par EDF ne change strictement rien au projet de renationalisation d'EDF. Un projet qui sera d'ailleurs lancé dès cet automne.
Merci Sofiane Aklouf. L'EDF, le garant de l'indépendance énergétique française, ne parviendra pourtant pas à répondre à tous les besoins de la France en termes d'électricité. Alors, comme le reste de l'Europe, nous nous sommes lancés à la course au charbon. C'est aujourd'hui que l'Union européenne cesse officiellement d'acheter du charbon russe en application des sanctions contre Moscou. Oui, mais le combustible le plus polluant au monde a encore de beaux jours devant lui. Il représente 11% de la production européenne. Il devrait augmenter de 7% d'ici à la fin de l'année, selon l'Agence internationale de l'énergie. Son prix a presque triplé depuis le début de l'année, 324 $ la tonne. Le premier importateur européen, l'Allemagne, devrait recevoir 32 millions de tonnes cette année contre 27 millions l'an dernier. En France, le gouvernement a demandé à Gazelle Énergie de rouvrir pour 6 mois la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. L'Europe lancée à la course des géants des télécommunications avec la fusion d'Eutelsat avec le britannique OneWeb pour concurrencer le projet Starlink d'Elon Musk. Le logisticien CMA-CGM comme BPI France souhaite renforcer leur position au capital de l'opérateur de satellites, une nécessité pour préserver les intérêts français sur cette opération sur laquelle lorgnent de nombreux actionnaires étrangers. Mathieu Pechvertis.
C'est désormais clair, Eutelsat est une entreprise stratégique pour le gouvernement. Hier, la Banque publique d'investissement a encore grignoté quelque part de l'opérateur de satellites. Elle en détient environ 22% et n'a cessé d'augmenter sa participation depuis que Eutelsat a annoncé son mariage avec OneWeb fin juillet. Le gouvernement souhaite que les intérêts français soient protégés lors de leur fusion entre égaux. Il souhaite peser face au principal actionnaire de OneWeb, le milliardaire indien Bharti Mittal, présent dans les télécoms. Sans oublier le japonais SoftBank et le gouvernement britannique qui conservera des droits spéciaux au capital du nouvel ensemble. Au cœur de cette opération, CMA-CGM continue lui aussi de monter au capital et vient de franchir le seuil de 5%. Il souhaite s'appuyer sur le mariage entre Eutelsat et OneWeb pour développer une branche spatiale, une dimension clé dans la logistique. Après son entrée récente au capital d'Air France KLM aux côtés de l'État français, CMA-CGM s'affiche comme un soutien incontestable de BPI France chez Eutelsat.
Face à cette petite musique qui s'est installée partout en Europe, dans le monde, l'inflation, les entreprises forcées de renégocier les salaires, des négociations qui ne vont pas sans tension, au contraire. Et d'ailleurs, dans les branches, de plus en plus de divergences apparaissent, même entre les organisations patronales, Caroline Morisseau.
Les questions salariales exacerbent les tensions, plus seulement entre patronat et syndicat, mais aussi entre organisations patronales. Les divergences sont d'ailleurs si fortes qu'elles éclatent désormais au grand jour. Dernier exemple, dans l'hôtellerie-restauration, le GNI n'a pas hésité à dénoncer l'irresponsabilité de l'UMI, qui refusait une proposition de mutuelle santé pour les salariés. Autre exemple, dans les services à la personne, les organisations patronales se sont ouvertement écharpées autour des indemnités kilométriques. Les uns proposaient une augmentation de 35 centimes par kilomètre. Les autres refusaient de grimper au-delà de 33 centimes. À 2 centimes près, l'accord a bien failli échouer. À l'origine de toutes ces tensions, une inflation galopante et des employeurs qui n'arrivent pas toujours à suivre le rythme. Inflation oblige, le SMIC en est en effet à sa 4e augmentation cette année. Dans les branches, beaucoup de minima ont du coup plongé en dessous du salaire minimum, ce qui oblige les organisations patronales à renégocier en permanence et avec à la clé des gestes nettement supérieurs à ce qui se fait d'habitude.
Midi 20 sur BFM Business, de jeter un œil à la bourse. Avec Étienne Brack. Étienne, on attend la décision, le chiffre de l'inflation américaine. En attendant, les bourses sont un peu attentiste.
Ouais, ils ne font rien, hein, puisque vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable à la mi-journée, qui est à la porte des 6500 points, 6488 points pour l'indice parisien, qui est parfaitement stable, idem du côté de l'Eurostoxx 50, le DAX à Francfort qui gagne 0,2%. Du côté des valeurs, on a toujours Sanofi qui est plombé par le plan de Joe Biden, hein, notamment en ce qui concerne le secteur de la santé, moins 2,6%, plus forte baisse de l'indice parisien, 92,93€, sachant que dans le même temps, hier, le groupe a annoncé l'arrêt des recrutements, notamment sur l'un de ses traitements phares. Les cours du pétrole également, qui tentent de se stabiliser aux alentours des $95, avec un baril de Brent qui perd un peu plus d'1%. Il faut se souvenir que hier, ils étaient bien orientés, avec notamment la Russie, hein, qui a arrêté des livraisons de pétrole russe à destination des pays de l'Est. Et puis l'euro-dollar également, qui tente de se stabiliser aux alentours des 1,02-1,0230. Et puis à l'inverse, on a Airbus qui est bien orienté, avec un titre qui gagne un peu plus de 0,7%, 107€, avec des informations de Reuters qui évoquent que Malaysia Airlines pourrait annoncer dans les prochaines heures une commande de 20 appareils, notamment en ce qui concerne les A330neo. Et donc tout ça, ça permet de soutenir ce titre Airbus qui est au-delà des 107€. Et donc l'indice parisien qui est parfaitement stable à la mi-journée, à la porte des 6488 points pour le CAC 40.
Merci Étienne Barraque. Midi 21 sur BFM Business. Des champs qui jaunissent, une sécheresse qui rend la gestion de l'eau beaucoup plus compliquée. Pourtant, les producteurs de sel, eux, bénéficient de cette météo qui leur est favorable. Mais pour combien de temps? Le président de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique est avec nous juste après ça. A tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi 23 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a des métiers en France qui sont particulièrement météo-sensibles. Notre invité tout de suite en fait partie, Christophe Anaem, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique. Alors Christophe, depuis juin maintenant, la pluie est aux abonnés absents. Il a par endroit 84% de déficit pluviométrique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça... à combien de jours de travail vous en êtes aujourd'hui?
Alors, au total, parce que vous parlez de pluie depuis le mois de juin, mais en fait, il n'a pas plu, il n'a pas du tout plu depuis le mois de février. Moi, j'ai recensé 7 cm de pluie depuis le mois de février, ce qui fait que nous avons un début de récolte depuis le mois de mai. Donc, on produit du sel depuis le mois de mai, ce qui est exceptionnel. Mmh. Et là, on a un non-stop de production depuis le 24 juin.
Un moment idéal pour vous qui du coup profitez de la sécheresse en fait. C'est une température, un moment idéal pour la production de sel. Vous êtes dans la région de Guérande, il me semble.
Exactement. Alors la sécheresse peut favoriser la production de sel. Après, j'ai du mal à me réjouir de la sécheresse quand même, puisque on se nourrit pas que de sel. Le sel sublime les aliments. Actuellement, la sécheresse fait aussi beaucoup de dégâts dans d'autres productions.
D'autres productions, mais la production de sel, est-ce qu'on se dirige vers une récolte qui pourrait battre des records cette année pour 2022, Christophe Anaem?
On pourrait. Je pourrais vous le dire à la fin de la récolte, puisqu'actuellement, la météo ne veut pas annoncer de pluie. Quand je dis de pluie, c'est de grosses pluies, hein, puisqu'une petite pluie peut nous occasionner une pause. Une grosse pluie peut sonner la fin de la récolte, et c'est vraiment à la fin de la récolte que je pourrais comptabiliser la totalité de la production et dire si elle a été record ou pas.
Parce que les pluies, c'est ça stoppe le processus en fait de cristallisation du sel aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Combien de grammes par litre aujourd'hui est-ce que vous pouvez tirer dans une production optimale?
Alors on comptabilise la production par œillet. Un œillet, c'est un bassin où on va récolter le sel. Mon exploitation, j'ai 60 œillets. Donc par jour, actuellement, je retire 50 kilos de gros sel par œillet.
50 kilos de gros sel, donc cette année, sans pluie. Voilà, pour exploiter des marais salants, c'est sans aucun doute la période idéale. Est-ce que il y a des pauses, donc du coup, quand il se met à pleuvoir, c'est ça, là, aujourd'hui? Parce que tant qu'il fait des chaleurs extrêmes comme en ce moment, ça vous permet de pouvoir dessaler, en fait, ça vous permet de pouvoir produire du sel en ce moment?
Effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, on a un métier qui est météo-dépendant, et tant que la météo, tant qu'il y a du soleil, du vent et pas de pluie, on produit. on produit du sel. Même si on préférait des fois faire une pause, ben on peut pas, puisque c'est notre métier et on, tant qu'il y a du sel, on le prend. À partir du moment où il pleut, ça stoppe le processus de cristallisation du sel, puisqu'on a de l'eau douce et qui descend du coup du ciel et qui tombe dans nos salines. Ça arrête la cristallisation. Alors de temps en temps, ça nous permet quand même de faire une pause. Et actuellement, je pense que beaucoup de producteurs de sel souhaiteraient faire une petite pause quand même.
Christophe Hanem, les paludiers voilà, peuvent non pas se réjouir, mais en tout cas ce sera sans aucun doute une bonne année. Mais pour autant, pour combien de temps? Est-ce que le manque de pluie va vous poser un problème? Quelles sont les conséquences que vous pouvez ressentir, vous, dans votre production, sur les effets du changement climatique?
La pluie me permet de faire des pauses. Donc actuellement, les conséquences, c'est que les producteurs de sel sont fatigués. Hein, clairement, les douleurs physiques commencent à se faire sentir et on a, à part ça, pas de problème pour produire du sel. On capte l'eau de l'océan pour produire notre sel et du coup, l'eau de pluie. Je n'ai pas de problème pour produire du sel, à part le fait que on est tous fatigués et que petite pause de temps en temps, ça pourrait faire du bien.
Mais le changement climatique n'est pas quelque chose qui pourrait venir perturber votre production sur les prochaines années.
Non, mais si ça pourrait perturber, puisque alors je suis pas climatologue, mais je pense que ces épisodes sans pluie et parfois avec beaucoup de pluie d'un coup et parfois des tempêtes qu'on voit plus fortes, de plus en plus fortes en période hivernale peuvent nous impacter puisque nos salines sont en dessous du niveau de la mer et protégées par des digues qui sont vieillissantes et les tempêtes et la dernière grosse tempête en date. Mais il y en a eu d'autres qui sont moins impactantes, mais la grosse tempête Xynthia de 2010, à l'avenir, ce que le GIEC dans son rapport dit bien que ce genre de phénomène sera de plus en plus fréquent. Cette tempête a occasionné énormément de dégâts sur nos digues qui protègent le marais salant, mais pas que, ils protègent aussi des habitations. Donc à terme, on peut s'inquiéter du changement climatique quand même.
Merci Christophe Hanheim, président de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique. Merci d'être venu dans 60 minutes business, midi 29. On marque une petite pause et puis après le rappel des titres de l'actualité de ce mercredi et puis les meilleurs moments de BFM Business avec vous, la rediffusion de l'été. À tout de suite. Midi 30 sur BFM Business, Elon Musk a vendu pour près de 7 milliards de dollars d'actions du groupe auto Tesla. D'après un document déposé auprès du gendarme boursier américain sur son compte Twitter, le patron de Tesla, Elon Musk, explique avoir souhaité éviter une vente en urgence de ses titres s'il se voit obligé de racheter Twitter et que certains de ses partenaires financiers ne le suivent pas jusqu'au bout. Berlin va adopter pour 10 milliards d'euros de mesures fiscales en 2023 afin d'être l'envolée des prix face à l'inflation. Le paquet de mesures doit notamment relever le niveau à partir duquel le taux maximal d'imposition sur le revenu s'appliquera et augmenter le montant des allocations familiales allouées. Le gouvernement allemand était contraint d'agir face au renchérissement des prix, notamment ceux de l'énergie. Deliveroo s'apprête à quitter les Pays-Bas et accuse de lourdes pertes au premier semestre. La plateforme de livraison a vu ses coûts s'envoler avec l'inflation provoquant une perte nette de 41% de son chiffre d'affaires à 54 millions de livres, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 12% sur les 6 premiers mois de l'année. Le constructeur automobile japonais Honda lui affiche des résultats en souffrance aussi. Son bénéfice net a reculé de 33% sur un an à 150 milliards de yens, 1 milliard 100 millions d'euros. Entre avril et juin, le groupe a vu ses ventes de voitures décliner fortement en volume, en particulier aux États-Unis et en Chine, à cause de la pénurie de semi-conducteurs et des confinements à Shanghai. C'était attendu depuis la fin des mesures de soutien aux entreprises post-Covid. Les défaillances d'entreprises vont crescendo en France, même domicile reste inférieur de 32% par rapport aux chiffres de 2019 d'avant la pandémie. Sur un an, 34 653 entreprises ont déclaré une cessation de paiement. C'est 23% de plus qu'en juillet 2021. Et puis, pas de pizza industrielle américaine au pays de la margarita et de la napolitaine. Domino Pizza abandonne finalement le marché italien. L'enseigne a chuté face à la tradition. Virginie Cook.
Domino's pensait pouvoir s'imposer au pays de la pizza. La chaîne américaine est arrivée en Italie en 2015 avec beaucoup d'ambition. Elle espérait ouvrir rapidement 880 restaurants dans le pays. Un succès qui aurait reposé sur son système de livraison efficace et sur des recettes atypiques comme la pizza à l'ananas. Mais les pizzas à l'américaine n'ont pas été au goût des Italiens. Ils sont restés fidèles aux petites pizzerias traditionnelles qui ont su, pendant la crise Covid, nouer des partenariats avec des entreprises de livraison comme Just Eat. Selon Bloomberg, la dette de la filiale italienne de Domino's atteignait 10,6 millions d'euros à la fin de l'année 2020. L'autre géant américain, Pizza Hut, lui, n'a jamais essayé de s'implanter dans la botte.
Midi 33 sur BFM Business. La bourse à la mi-journée reste stable. Le CAC 40 est dans le vert, à plus 0,02%. En attendant, bien sûr, les chiffres de l'inflation américaine, les volumes d'échanges restent particulièrement bas sur les places européennes.